Eh bien, chers auditeurs, bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans ce libre journal des amitiés françaises. Je rappelle que nous avons la chance d'avoir Laurent qui est au standard. Il sera ravi de prendre vos messages, vos questions que nous proposerons à notre invité. Je rappelle à cet effet le téléphone de la radio 01 46 51 00 85 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique courtoisie@rc.fr courtoisie@rc.fr. Nous abordons maintenant donc la deuxième partie de notre émission, toujours en direct. Nous évoquons bien sûr la Révolution française et ses affrontements qui créèrent ainsi des destins hors normes, comme ceux que l'on peut rencontrer dans les tempêtes de l'histoire. Et parmi ces destins, il en est un dont une part d'ailleurs demeure toujours insaisissable, incompréhensible, et le rôle parfois assez flou. Et pourtant, le général de Gaulle possédait une représentation, une statuette de cette personnalité dans son bureau de la Boisserie. Est-ce que parce que Danton, qui a soutenu Dumouriez lors des guerres, effectivement au nord, en Belgique et aux Pays-Bas, est-ce parce que Danton fut justement le galvanisateur de la résistance nationale par son énergie, et ainsi dans la guerre révolutionnaire qu'il mena contre la coalition des monarchies? C'est une question que nous poserons bien sûr à notre invité, parce que nous nous souvenons tous de son discours, le discours de Danton, le 2 septembre 1792, alors que Verdun vient de tomber pris par les Austro-Prussiens. Eh bien, Danton engage les Français à sauver la patrie en danger et à voir, ce sont ces termes, de l'audace, toujours de l'audace. Mais Danton fut, sur le plan politique, aussi celui qui laissa faire, si ce n'est qui inspira, notamment en soufflant sur les braises, les massacres de septembre, vota la mort du roi alors qu'il ne la souhaitait pas, et sacrifia les Girondins, vota aussi la mise en place du tribunal révolutionnaire. À la fin de sa vie, Danton devint le défenseur d'une forme de modération. C'est alors que Robespierre l'envoya à l'échafaud à la suite d'un procès inique. Danton entre dans la légende sur l'échafaud avec cette formule magnifique qu'il prononça au bourreau: « Montre ma tête au peuple, elle en vaut la peine. » Qui était réellement Danton ? Était-il un personnage romantique, chaleureux, une sorte de Rabelais de la Révolution, antithèse du glacial incorruptible, ou tout simplement un autre révolutionnaire qui sera tragiquement dévoré par cette Révolution, comme nombre de ses coreligionnaires, donc les autres révolutionnaires? Eh bien, une magnifique biographie de Danton répond à cette question, tout en se lisant comme une véritable fresque de la Révolution. Il s'agit du Danton, bonhomme ou démon. Vous voyez que la question, chers auditeurs, est posée par l'auteur de cette biographie, qui est Jean-Paul Desbras, et qui la publie aux éditions du Rocher. Nous avions déjà réalisé une première émission, et en y étions d'ailleurs restés à la prise des Tuileries, qui était bien sûr l'élément fatidique, celui de la chute de la monarchie, suivi à peine deux mois après, des massacres de septembre. Et là, nous reprenons l'histoire de Danton, en compagnie donc de Jean-Paul Desbras, que nous avons grand plaisir à recevoir ce soir. Jean-Paul Desbras, bonsoir.
Bonsoir Thierry Delcourt.
Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct en cette fête des mères. On apprécie particulièrement que vous soyez venu dans notre studio. Ce n'est pas très facile, en plus qu'il y a beaucoup d'agitation
de autour
hein,
du studio,
hein.
Là, ce soir.
Beaucoup de... Alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qui vous connaissent bien que vous êtes historien, vous êtes un spécialiste des 17e et des 18e siècles. Nous avons reçu à plusieurs reprises à l'occasion de la publication de vos livres. Je me permettrai d'en citer quelques-uns qui touchent bien sûr à cette histoire, celle du XVIIe et du XVIIIe siècle, bien que vous ayez pris quelques chemins de traverse, parfois, notamment pour évoquer quelqu'un, évoquer un lieu qui m'est cher, non pas pour le lieu proprement dit, la belle histoire de Gironde, l'histoire de ma maison en Rouergue, parce que vous habitez en effet la maison de Gironde. Et à Saumur, il y a un grand cavalier qui est le lieutenant de Gironde.
Oui.
Exactement. Qui a commandé cet escadron en 14 et qui a chargé des avions allemands
à cheval.
Alors, ce n'est pas la dernière charge à cheval, mais c'est une des toutes dernières. Et il a été tué d'ailleurs à cette occasion-là.
Il a été tué.
Je me souviens d'un camarade de promotion à Saint-Cyr qui avait proposé son nom comme nom de promotion. La belle histoire de Gironde, histoire de ma maison en Rouergue. Ça, c'est un premier livre, donc qui n'est pas du XVIIe ou du XVIIIe siècle, mais vous avez écrit, je citerai aussi, parce que nous avions aussi fait une émission sur ce livre, Le guerrier philosophe, mémoire apocryphe du prince Eugène de Savoie. Bon, ça, c'était au Seuil en 2020. Et puis, plus d'actualité, Les Bourbons de Naples, par Alexandre Dumas. Ça, c'est la traduction d'un texte dicté par Dumas en italien, voilà, que vous avez publié sous forme de feuilleton.
Dumas l'avait dicté tous les matins.
Oui.
En quelques mots, c'est en 1860, Dumas arrive à Naples. Il ne venait pas forcément soutenir Garibaldi, et il y avait une histoire d'amour toujours sous-jacente chez Dumas. Et il se rencontre avec Garibaldi. Garibaldi, Dumas était mondialement célèbre, et Garibaldi lui dit « Tu vas nous aider, on va fonder un journal pour soutenir l'unité italienne. » Ce journal s'appelle l'Indépendante, qui marchait mal. Et au bout d'un moment, il lui dit « Écoute, tu vas faire les pages centrales, et alors tu choisis le sujet. » Et alors il choisit les Bourbons de Naples, et il dicte le matin à deux journalistes en français, qui écrivent dans le journal en italien. Et ce texte n'avait jamais été traduit. J'en ai traduit la moitié, et j'espère un jour traduire l'autre moitié, parce que c'est énorme, c'est déjà 800 pages la moitié, mais j'espère faire la suite, puisque ce texte n'avait jamais été traduit en français.
Et puis, citons aussi deux livres sur cette période révolutionnaire, Mirabeau, que vous avez publié chez Perrin, l'excès et le retrait. Et puis, tout récemment, puisque nous avions aussi réalisé plusieurs émissions, parce que c'était une histoire qui est extrêmement riche, qui a elle aussi parcourt l'histoire de la Révolution, une histoire des Girondins aux éditions Perrin. C'est Girondins que l'on retrouve naturellement dans Danton, puisque
bien sûr.
Danton a recherché en quelque sorte.
Le drame, c'est qu'il ne se soit pas entendu. La Révolution a été moins sanglante.
Ils n'ont pas voulu Danton, c'est ce que vous nous expliquez. Oui. C'est Madame Roland.
Madame Roland détestait Danton, et ça a joué en partie.
Danton,
il n'y a pas que ça, mais ça a joué en grande partie.
Pourquoi détestait-elle Danton?
Elle trouvait qu'il avait mauvaise allure. Elle était très prude. Elle a des histoires d'amour, mais qui ne se traduisent jamais parce qu'elle a beaucoup de charme, tout ça. Et puis, c'est une meneuse d'hommes. Et alors, elle a autour d'elle une cour, mais elle ne cède jamais. Et elle n'aime pas la vulgarité. Elle est très austère. Chez elle, on a une carafe d'eau et du sucre. C'est tout ce qu'on a sur la table.
Il n'est pas, en effet, le
alors,
signe Danton.
Chez Danton, il y a la poularde tous les soirs.
Oui. Je vous propose que vous nous résumez quelques mots pour bien nous remettre dans cette histoire. Ce que vous aviez raconté lors de la première émission consacrée à Danton, où nous en étions arrêtés à peu près aux Tuileries, enfin, juste avant les journées d'août et l'invasion des Tuileries, où là, il a un rôle trouble, mais important.
Voilà. Alors, écoutez, repartons 60 jours avant. 60 jours avant, le 13 juin 1792, c'est la démission du ministère girondin. Le roi renvoie les Girondins et reprend ce qu'on appellerait aujourd'hui un ministère technique avec des aristocrates qui ont des capacités et qui seront là avec le roi jusqu'au 10 août au matin. Il y aura un conseil des ministres le 9 août au soir. Voilà. Et donc, et ensuite, 7 jours plus tard, ce qui est un peu un ricochet de ce renvoi des Girondins, il y a la fameuse journée du 20 juin. Et là, c'est vraiment le surgissement du peuple. Et c'est un moment capital parce que ce 20 juin 1792, les Girondins prennent peur. Et donc, le champ est ouvert à ceux qui veulent aller plus loin. Et ceux qui veulent aller plus loin, c'est Danton et Robespierre. De manière très différente. Robespierre, c'est plutôt intellectuellement, puisqu'il va ouvrir à l'intérieur du club des Jacobins une espèce d'officine qu'il va fournir les sections en libelles, en déclarations, etc. Danton va avoir un rôle beaucoup plus de terrain. Et Danton va animer les sections. Danton est vraiment un des organisateurs du 10 août. Il a beaucoup de prudence, il n'apparaît pas forcément. Oui. Mais et vous parliez tout à l'heure du général de Gaulle, puisque c'est moi qui ai vu, en visitant le bureau du général de Gaulle, qui ai vu cette petite statuette de Danton. Mais écoutez, il y a la même chose. Les grands hommes d'État, c'est de mentir au bon moment. C'est-à-dire que de Gaulle a fait croire en 1945 que tous les Français avaient été résistants. Eh bien, le rôle de Danton, ça avait fait, alors que cette révolution, elle est à 90% parisienne. Mais il va faire croire que toute la France est là. Comment va-t-il faire? Il va se servir des fédérés. Et les fédérés ne sont pas nombreux, c'est quelques centaines d'hommes. Il y en a 200 ou 300 qui viennent de Marseille, qui ont été recrutés d'ailleurs par un Girondin, qui est Barbaroux, et qui sont arrivés. Pourquoi les appelle-t-on fédérés? C'est qu'ils sont venus pour la fête de la Fédération, la fête de la Fédération de 1792, à laquelle va assister Louis XVI. C'est sa dernière manifestation publique. Et la deuxième partie de fédérés, ce sont des fédérés bretons. Alors il veut faire le génie de Danton, c'est dire mais toute la France était là puisque il y avait pas que des Parisiens, il y avait des Marseillais, il y avait des Bretons. Et son rôle est très actif parce que par exemple les fédérés marseillais sont d'abord installés rive droite dans le faubourg Poissonnière, dans une caserne qui a toujours son nom, qui est la caserne de la Nouvelle-France, qui a été une caserne, je crois qu'elle est désaffectuée actuellement, mais le bâtiment existe toujours, c'est une caserne qui était devenue une caserne de la garde républicaine dans le 10e arrondissement. Eh bien, il va déménager subrepticement les 200 ou 300 types qui étaient arrivés là, ces fédérés, et il va les amener dans le réfectoire des Cordeliers. Il va les faire dormir quelques jours avant. Et il va animer avec un sang-froid extraordinaire. Je pense que je l'ai déjà raconté la dernière fois, puisqu'on est à la césure de nos deux émissions. C'est-à-dire qu'il va les accompagner jusqu'au Pont Neuf, en direction des Tuileries, dans la nuit du 9 août, et il va aller se recoucher. Il va laisser. C'est-à-dire qu'il va magnifiquement régler l'horloge, faire jouer tous les mécanismes en apparaissant au minimum. Et c'est d'ailleurs là que nous allons recommencer aujourd'hui, puisque c'est quand il dort que des événements importants ont lieu à l'Assemblée nationale, et que il participe à une autre chose dans la nuit qui est très importante, c'est l'éviction du conseil municipal parisien. Cette révolution est parisienne, comme je disais, à 90%. L'éviction à 2h du matin.
Manu Militari. Hein.
Voilà, du conseil municipal. Les deux conseils. Il y a un conseil municipal insurrectionnel dont il a été vraiment l'organisateur, et il y a le conseil municipal élu, qui vont siéger pendant 2 ou 3 heures, l'un à côté de l'autre, dans deux salles différentes de l'hôtel de ville, jusqu'au moment où Danton, voyant qu'il y a suffisamment de membres du conseil insurrectionnel, tout le monde va sortir et on va virer le conseil municipal légal. Après quoi, là aussi, il va retourner se coucher avant d'accompagner ensuite les fédérés qu'il a amenés au couvent des Cordeliers. C'est assez extraordinaire. Et c'est quand il... Alors, qu'est-ce qui se passe le matin à l'Assemblée nationale? D'abord, il y a une délégation du conseil municipal légal qui arrive, qui est rapidement évincée. Jaurès dit que c'était une conversation géniante qui n'est pas du tout écoutée. Et arrive la délégation insurrectionnelle menée par Huguenin, un ancien employé des barrières de Paris, et qui pose ses conditions. Et la présidence de l'Assemblée est assurée à ce moment-là par Vergniaud, un des grands Girondins. Vergniaud arrive tout de même déjà premièrement, à venger les Girondins, c'est-à-dire que les ministres renvoyés par le roi le 13 juin, dont je parlais tout à l'heure, Roland, Clavière, sont rétablis dans leur fonction. C'était ça l'obsession des Girondins depuis le 13 juin. Et à ce moment-là, pour complaire à la municipalité insurrectionnelle qui est là dans la chambre, on va élire Danton, ministre de la Justice. Et Danton dort pendant ce temps-là. Et c'est ses amis qui vont venir, qui arrivent le matin, tu es ministre. Voilà, c'est la grande surprise.
Il est devenu ministre en même temps que l'insurrection.
Voilà. Il est au matin de l'insurrection.
C'est assez impressionnant quand même la manière dont il agit.
Ah bah parce qu'il a agi magnifiquement, je dis, c'est la grande politique.
Il va se coucher.
Voilà.
Et
voilà.
Après, les événements se déroulent. Ça, il n'est même pas là physiquement.
Voilà.
Il n'est pas là. Voilà. Il est assez impressionnant.
Il est sûr de l'horloge qu'il a montée. C'est un grand politique.
Mais quel était son objectif avec l'insurrection, avec les journées d'août
À partir du 13 juin, il voit que à partir du 13 juin, même s'il est déjà un peu en regardant ancien de faïence les Girondins, il voit qu'on ne peut plus rien faire avec la monarchie. C'est plus possible, il ne peut plus y avoir le ministère quand le roi appelait les Girondins, du mois de mars jusqu'au 13 juin, c'était certainement la première cohabitation française. Le roi assistait au Conseil des ministres, lisait le journal, et les ministres parlaient, proposaient des décrets, le roi signait ou ne signait pas. Mais les choses deviennent impossibles. À partir du moment où il y a ce renvoi, où le roi reparle de manipuler le veto, où il a un ministère assez technique, Robespierre et Danton voient qu'il faut tourner la page, il faut faire tomber la monarchie. Et donc, ils se partagent assez bien les rôles, même si déjà il y a entre eux une certaine opposition, comme je l'ai dit. Robespierre s'occupe de la partie libelle, proclamation, de tous les écrits qui vont nourrir le mouvement des sections. Et Danton est sur le terrain pour organiser l'insurrection.
Alors, j'aimerais, si vous voulez bien, lire ce que dit Michelet.
Allez-y.
Sur le rôle de Danton, c'est page 128. De votre livre. Alors vous écrivez, là c'est vous qui écrivez, Michelet dit que l'événement du 10 août n'eut presque pas de préparatifs, que les sociétés populaires et les clubs n'eurent que peu de part et que c'est l'œuvre du génie colérique du peuple lassé du parlage des politiques. Et il ajoute, l'individu ne fut rien, ce fut le peuple, mais nul ne s'y associa mieux que Danton. Un peu plus loin, Biot Varenne écrira, Danton a fait le 10 août. Gara corrigera, il a arrangé le 10 août, et Georges lui-même, à son procès, dira, j'ai préparé le 10 août.
Il l'a préparé, oui. Il l'a préparé et il a su se mettre en retrait, c'est ça son génie politique.
C'est incroyable. Mais alors, il l'a préparé, finalement, ce qui a été décisif, c'est la mise en place de la municipalité insurrectionnelle.
Robespierre par les écrits et lui par le mouvement, il avait ses gens dans les sections.
Les sections, ce sont les... Rappelez-nous ce que sont les sections, s'il vous plaît.
Les sections, c'est les 48 sections de Paris qui sont...
Les sections électorales,
en quelque sorte. Paris était divisé en 60 districts, et à partir de 91, ces 60 districts sont devenus 48 sections. Alors, elles sont plus ou moins... Elles ont une couleur politique. Les sections qui sont restées monarchistes, il y en a très très peu. Elles sont autour de la Bourse, autour du Palais Royal, et surtout sur la rive gauche, avec l'action de Danton, du Club des Cordeliers, ces sections sont très révolutionnaires.
Et quelles troupes sont mobilisées? Quelles troupes mobilise-t-il en quelque sorte?
Ah, mais ce sont les plus déterminés des sections qui sont là, qui participent avec les fédérés,
les fameux fédérés
qui sont à la manœuvre.
Et pourtant, ça aurait pu ne pas fonctionner. Nous avons déjà évoqué cette histoire. Le roi se réfugie sous la pression de Roederer. Il se réfugie avec sa famille au manège.
Oui.
Qui est à côté, à quelques dizaines de mètres. Mmh. Mais il aurait pu rester finalement.
Rien n'était acquis.
Oui,
j'ai parlé tout à l'heure du 20 juin, quand les Tuileries sont envahies, quand le roi est obligé de coiffer le bonnet phrygien et de boire. Mmh. De boire un coup de vin à la santé du peuple sans que le vin ait été goûté. C'était la première fois que le roi buvait du vin qui n'était pas goûté.
Eh
bien,
occasion.
Il y a eu ensuite 30 000 citoyens de Paris qui sont allés porter leur soutien au roi chez des notaires. Donc, rien n'était acquis.
Oui.
Entre le 20 juin et le 10 août. Alors ensuite, d'ailleurs... des gens comme Marat disent qu'il faut rechercher ces 30 000 et les mettre en prison. Hein, ça sera là aussi l'œuvre de modération déjà de Danton qui empêchera qu'on aille inquiéter ces 30 000 signataires qui ont déposé leur signature pour soutenir le roi chez des notaires.
Oui, parce qu'à ce moment-là, il est ministre de la justice.
Voilà, Et ça sera... Alors, il ne reste ministre de la justice que 70 jours.
Oui. On va évoquer quand même cette période, parce qu'il a, il a un rôle réel. Pour revenir à cette journée des Tuileries, hein, qui est... Finalement, les Tuileries n'ont été prises que lorsque le roi a décidé de demander à ce qu'on cesse le combat. Michelet, écrivez-vous, va jusqu'à penser que si le roi s'était présenté seul, la monarchie aurait pu être sauvée. Oui. Pourquoi Michelet dit cela? Qu'en pensez-vous?
Le discrédit de la reine. Le discrédit de la reine.
C'est le discrédit de la reine qui joue.
Parce que, effectivement, toutes les officines se sont déchaînées. Il y a encore un prestige, malgré tout, de la monarchie, mais qui empêche qu'on attaque très, très, très directement le roi, sauf dans des libelles qui circulent sous le manteau. Mais le grand discrédit porte sur la reine.
Mais alors, en mettant en place cette commune insurrectionnelle, qui a la place donc, de la commune légale,
oui.
De Paris. En effet, Danton obtient ce qu'il voulait, c'est-à-dire la prise des Tuileries et puis la chute de la monarchie. Mais en quelque sorte, il ouvre la boîte de Pandore.
Et alors, justement, son travail, ça va être d'essayer de canaliser l'énergie révolutionnaire qui part dans tous les sens. Par exemple, les décisions... les décisions qu'ils ont prises dans les 48 premières heures sont absolument étourdissantes. Par exemple, il est décidé de démolir la porte Saint-Denis et la porte Saint-Martin. Ce qu'on n'a pas fait, elles sont toujours là.
Ça, c'est la commune.
Mais c'est la commune insurrectionnelle, parce que c'était des portes qui portaient des noms de saints. Et qu'on pensait que les processions passaient dessous. Il est décidé aussi de retirer tous les objets qui sont de la crédulité publique dans les églises, ce qui ne sera pas fait tout de suite. Voilà. Il y a énormément de choses contre lesquelles, et alors en particulier, ça va être une œuvre importante de Danton, parce qu'il a évité par là bien, bien des dérapages, c'est que l'Assemblée nationale, le 17 août, donc 7 jours après la chute de la monarchie, vote la création d'un tribunal qui est vraiment l'ancêtre du tribunal de salut public, c'est-à-dire un tribunal populaire dont les sentences ne sont pas susceptibles d'appel. Et ce tribunal, qu'on appellera le tribunal du 17 août, commence d'une façon ravageuse, puisque 2000 personnes vont être mises en prison. Et ça va être le travail de Danton de modérer et très vite de faire supprimer ce tribunal. Donc, si vous voulez, Danton, c'est l'accélérateur et tout de suite... savoir modérer les choses. Mais c'est ce que je dis.
C'est un double jeu, non?
Oui,
vous ne trouvez pas, quand même? Parce que d'ailleurs, on aura le tribunal révolutionnaire.
Oui,
il y sera favorable au tribunal révolutionnaire.
Oui, mais c'est quelques mois plus tard.
Oui, voilà. Vous écrivez, pardonnez-moi quand même, Jean-Paul Desbras, vous écrivez que cette instance du tribunal du 17 août annonce le futur tribunal révolutionnaire.
Exactement.
Et le tribunal révolutionnaire, il y sera favorable. Donc,
il essaiera aussi d'en modérer les excès.
Oui.
Voilà. Donc, c'est ce côté, et c'est son système. Je pense que c'est son système, c'est toujours... C'est un homme qui est raisonnable. Il est, je dirais pas modéré, mais il est raisonnable. Mais on l'a très bien vu dans le procès du roi. Quand commence le procès du roi, il a gardé des amitiés partout, même chez les monarchistes les plus endurcis. Et je racontais que Théodore de Lamette, qui est proscrit, vient le voir la nuit, et lui dit, écoute, t'inquiète pas, ils se connaissent depuis longtemps, ils se tutoient, je sauverai le roi si je le peux. Mais si je ne le peux pas, je serai plus terrible que les autres. C'est-à-dire que c'est toujours cette chose qu'il veut justement la modération qui est l'équilibre, qui permettra, parce qu'il est extrêmement attaché au droit de propriété, qui permettra de préserver l'ordre, le droit de propriété. Il accompagnera le peuple dans ses fureurs quand il ne pourra pas s'y opposer et ses fureurs iront jusqu'au bout et ensuite il essaiera de réparer.
C'est un peu ça, sa technique. Oui, mais ça, c'est votre interprétation, Jean-Paul Lebret. Est-ce qu'elle est partagée? Parce que on pourrait dire simplement que c'est un double jeu. Si vous en revenez au procès du roi, par exemple, je ne sais plus si c'est Lameth ou c'est un autre qui propose le fait qu'une condamnation capitale du roi ne pourrait être prononcée qu'à deux tiers de majorité.
Oui, mais là, parce qu'il a vu qu'après le discours de Saint-Just du 8 novembre, il a vu qu'il ne pourrait pas sauver le roi, donc il décide que le roi...
Oui, mais s'oppose à cette mesure qui aurait pu sauver le roi.
Non, quand je ne sais plus d'ailleurs quel député, qui est un député modéré girondin, propose que la majorité qui est appliquée dans les tribunaux criminels, qui est la majorité des deux tiers, soit appliquée, lui dit non, ça sera la majorité de 50%. Et il sait qu'à ce moment-là, il condamne le roi.
Oui, pourquoi fait-il ça? Il aurait appuyé cette décision.
Après le 8 novembre, il a compris. Quand le procès du roi commence, nous sommes en octobre. Mmh. Quand il parle à Théodore de Lameth, c'est début octobre. Et quand il y a le discours de Saint-Just qui dit que ça n'est pas Louis XVI que nous allons juger, c'est un principe, et qui recueille là-dessus l'adhésion de toutes les sections de Paris et même de sections de province, il se rend compte qu'il ne pourra pas sauver le roi. Donc il faut évacuer la question, passez-moi l'expression, et ensuite essayer de raccommoder.
Mais comment, je voudrais, si vous voulez bien, revenir à son rôle après justement les journées des Tuileries, lorsque la commune nouvelle, insurrectionnelle, donc, va tenter de prendre la main, elle envahit l'Assemblée nationale.
Oui.
Avec
oui.
ses troupes. Leurs troupes, ah, c'est donc les sectionnaires.
Oui.
Elle envahit l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale va lui céder sur des mesures qui sont extrêmement graves. Par exemple, les députés autorisent la commune insurrectionnelle à procéder à des visites. Oui, c'est ça, des perquisitions, des visites domiciliaires et à emprisonner, et à emprisonner les gens. Et, et l'Assemblée valide cela.
Voilà.
Donc. Quelle est l'attitude là de Danton? Parce que c'est ça qui va aboutir au massacre de septembre.
Il sait qu'il ne peut pas retenir les perquisitions. Il sait qu'il ne peut pas empêcher ces perquisitions qui vont être terribles puisque c'est elles qui vont remplir les prisons.
Exactement.
Et 3000 personnes qui, lors des massacres de septembre, entre le 2 et le 5 septembre, vont périr. Les prisons sont pleines.
Mais pardonnez-moi, je vous interromps, mais vous dites il sait qu'il ne peut pas s'y opposer. Oui. Et la majorité de l'Assemblée ne souhaite pas donner ce pouvoir à la commune. Elle va céder, parce qu'elle a peur.
C'est bien voté.
Oui, parce qu'elle a peur.
C'est voté sous la contrainte.
Oui, c'est ça.
Les députés ont à côté de deux les sectionnaires qui se sont assis à côté d'eux au matin du 11 août. Et c'est vrai qu'il y a... Et ça sera le combat des Girondins. Les Girondins vont s'user à essayer de restreindre les pouvoirs de la commune insurrectionnelle et ils vont avoir des paroles outrancières comme, effectivement, à l'époque, il y a 83 départements, Paris doit être ramené au 83e de son importance. Mais ils ne vont pas. Alors, Danton cède. Danton va céder très très loin, puisque on va parler des massacres. Dans le cas des massacres.
On va parler des massacres
de septembre. Dans le cas des massacres, qui sont la conséquence immédiate de ces réquisitions et de ces perquisitions de maisons, puisque là, on donne autorité. Alors, aux sections d'aller faire des perquisitions de nuit dans les maisons.
Alors nous allons parler effectivement des massacres qui démarrent le 2 septembre. Par qui ont-ils été organisés? Comment ça s'est passé? Quel a été là encore le rôle de Danton? Et puis des Girondins, il est toujours ministre de la Justice lorsque les massacres... Alors avant d'aborder donc ces massacres de septembre et le rôle que Danton y a joué, notamment en tant que ministre de la Justice, je vous propose de nous dire quelques mots quand même s'il n'a fait que deux mois quel ministre de la justice a-t-il été? Parce que vous écrivez qu'il a quand même produit en 10 jours de ministère, 123 décrets.
Oui.
Bâclés pour la plupart.
Oui.
Ajoutez-vous.
Oui. Et puis alors, en plus, il y a ce côté qui sera très vite dénoncé, c'est que c'est une association de copains.
Hein, il prend ses meilleurs.
Oui,
alors,
il y a copain coquin dans ce ministère de la justice, même s'il... Il reste quelque chose d'assez emblématique, puisque c'est le seul ministère qui n'a jamais changé d'adresse, qui est toujours Place Vendôme, et les ministres successifs de la Justice ou garde des Sceaux...
Bureau.
Ah oui, sont très honorés de travailler sur le bureau de Danton, toujours.
Donc, notre ministre actuel de la Justice.
Voilà, et donc... Il fait rentrer ses copains, parce que tous ses copains qui viennent lui dire le matin « tu es ministre », et il demande tout de suite des postes. Alors, il y en a deux surtout, Camille, qui va être le secrétaire, et Fabre d'Églantine. Alors Camille, c'est un homme honnête et innocent, larmoyant, qui peut être terrible en même temps, mais c'est un pré-romantique. Bon, c'est une plume magnifique. Mais Fabre d'Églantine... Fabre d'Églantine va commettre dans ce court ministère, et on va le voir d'ailleurs par la suite, hein, ça sera une des causes au moment du procès de Danton, c'est la mauvaise conduite financière, la prévarication de certains de ses amis, en particulier Fabre, et surtout Delacroix, dont on parlera plus tard, Delacroix qui a une action plutôt militaire auprès de Danton. Donc, arrivent ces massacres.
Donc, avant, quand même, j'aimerais aussi préciser son attitude vis-à-vis de Robespierre. Enfin, c'est ce que vous l'évoquez, hein, bien sûr. Jean-Paul Lépra, dans cette superbe biographie consacrée à Danton, bonhomme ou démon, aux éditions du Roger, avec ce splendide portrait, ce dessin. Oui. De qui est-il déjà?
Alors, ça, je ne sais plus.
En couverture, ce magnifique portrait de Danton.
Voilà.
Qui est effectivement. Il y a toute une volonté farouche qui s'exprime sur ce visage. Il y a un côté bulldog, un petit peu. Le bulldog est un animal très laid et très beau à la fois.
Voilà. On a déjà, dans la précédente émission, on a parlé de ce physique étonnant qui résulte d'un coup de pied de taureau qu'il a reçu en pleine face dans sa jeunesse.
Oui, je souhaitais quand même dire ce que vous écrivez sur cette relation avec Robespierre. Danton aura tort, il est ministre de la Justice.
Oui.
Danton aura le tort de proposer à Robespierre d'émarger sur son budget pour quelques vacations bien payées.
Voilà. Mais c'est le côté...
Robespierre refuse, bien sûr.
On est avant la Cour de justice de la République. Hein, donc, c'est le côté, écoute, on est aux affaires, on va en profiter. Il y a ce côté, on le verra avec des gens terribles comme Chabot, tout ça, qui sont arrivés, des révolutionnaires bardés de résolutions, tout ça, qui vont devenir les pires manipulateurs. D'ailleurs, Danton va en périr, parce que Danton... Michelet le dit très bien, il n'avait pas des besoins extraordinaires, il menait une vie plutôt bourgeoise, toute simple, il n'avait pas de maîtresse, il a eu deux femmes dans sa vie.
Il était très amoureux d'elle,
d'ailleurs. Très amoureux des deux femmes, à la mort de sa femme, on le racontera peut-être, mais c'est...
Oui, bien sûr.
C'est un héros de la mort
qui est
une des choses les plus...
Nous allons en parler.
C'est du Shakespeare. Et il n'avait pas de gros besoins, alors que des gens comme Fabre d'Églantine étaient des flambeurs, Delacroix aussi, et Chabot qui était arrivé en galoche de Rodez et qui va finir par épouser la sœur d'un banquier juif pour planquer tout l'argent qu'il avait détourné en protégeant des aristocrates en leur évitant la guillotine. Il y a eu des gens quand même extraordinaires dans cette révolution. Comme tous ces grands brassages, ces grands mouvements révèlent souvent des caractères bien peu scrupuleux.
Et c'était le cas de Danton, il a été quand même corrompu, payé par le roi,
C'est petit par rapport à beaucoup de gens qui sont autour de lui.
Un peu seulement.
Voilà. Il avait une bonne cave, il y avait toujours chez lui une table absolument extraordinaire, mais il n'y a pas de... On le voit d'ailleurs, on dit toujours qu'il a acheté des domaines extraordinaires dans l'Aube, dans son village d'Arcy. En réalité, son domaine, à la fin de sa vie, ne dépasse pas 50 hectares. Donc, c'est pas un homme qui va flamber comme certains de ses amis qui vont le faire plonger.
Lorsqu'il est ministre de la Justice, j'aimerais lire effectivement ce passage, c'est l'acquittement, parce qu'il va y avoir une suite. Il va y avoir une suite à cette affaire, c'est l'affaire Montmorin. L'acquittement de Montmorin.
Alors Montmorin...
Je lis ce que vous écrivez, si vous voulez bien. L'acquittement de Montmorin par la Haute Cour d'Orléans, le 17 août, le révulse. Il demande au juge de refaire le procès.
Oui.
L'ancien ministre est réincarcéré.
Oui.
Cela finira mal pour lui.
Ouais,
nous allons le voir avec les massacres de septembre. Il casse l'accusateur public de cette instance Botteau-Dumesnil qu'il estime trop laxiste.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il reprochait? C'est quand même terrible.
Ben, Montmorin était un des hommes qui avait le plus été près de Louis XVI, il avait tenu la caisse aussi à un moment et tenu un peu le secrétariat particulier. C'est le père de la fameuse Pauline de Beaumont qui a tant compté pour Chateaubriand. Non, voilà. Et Chateaubriand a des pages merveilleuses, il ne l'a pas connu, mais a des pages merveilleuses sur Montmorin, qui était un homme honnête, un monarchiste. Voilà. Sauf que le tribunal d'Orléans, on en a parlé la dernière fois, c'est la cour exceptionnelle qui doit juger les ministres dans leurs actes publics. Et donc, cette cour d'Orléans, qui était composée de gens nommés par le roi, a poursuivi 7 jours après la chute de la monarchie ses travaux. Et donc, elle a jugé Montmorin sur pièce.
Bon, quel était l'acte d'accusation contre
Montmorin? Montmorin, c'était les actes d'accusation, c'était toujours la haute trahison. L'Assemblée nationale envoyait les anciens ministres. Plusieurs de ces anciens ministres ont été envoyés à la cour de... Ça finira mal pour trois d'entre eux.
Peut-être peut-on raconter d'ailleurs la fin de Montmorin, cette fin terrible. C'est pour ça que c'est la fin de Danton est terrible, elle aussi, et puis il meurt avec beaucoup de courage et beaucoup de panache, il faut quand même le souligner.
Vous avez cité les dernières phrases, mais moi, celle qui m'émeut le plus, on passe un peu à la fin, mais dans ces dernières phrases, c'est quand il va monter sur l'échafaud, et c'est Camille qui monte avant lui. Alors il prend Camille pour l'embrasser, et le bourreau le sépare, et lui dit, espèce de crétin, tu n'empêcheras pas nos lèvres de s'embrasser dans 2 minutes au fond du panier. Faut quand même le faire.
C'est vrai qu'il a un courage vraiment impressionnant, mais d'un autre côté, il a quand même envoyé beaucoup de monde à la mort. Et Montmorin, c'est le cas. Montmorin va mourir dans des conditions atroces.
Oui.
Je vous laisse évoquer, si vous voulez, on prend un petit peu d'avance. De toute façon, on va arriver au massacre de septembre. Montmorin est victime de ces massacres, mais à Versailles.
À Versailles,
Au pied du château. Il y a un tableau, d'ailleurs, assez fameux.
Il y a une plaque, d'ailleurs, devant la cathédrale de Versailles. Il y a une plaque.
C'est au pied des 100 marches qu'ils ont été assassinés.
Et alors, ils tombent sur le pire voyou qu'il y a, qui s'appelle Fournier l'Américain. Fournier l'Américain, il a été américain parce qu'il a été planteur à la Martinique. Il avait une fabrique de tafia, il a fait faillite, il s'est très très mal conduit, il a fait des banqueroutes. Et c'est un terrible. Et alors, Fournier l'Américain est chargé par l'Assemblée nationale de ramener à Paris, comme on voit effectivement que la haute cour ne fait pas son travail révolutionnaire, de ramener à Paris les prisonniers.
Dont Montmorin Danton.
Voilà. Il touche de l'argent et pour les mener en sécurité, le temps que ça se calme, à Saumur. Et cet argent touché, il décide tout de même de les conduire à Paris parce que ça va aller très vite, il le sait. Et c'est en arrivant à Versailles qu'ils seront massacrés par des révolutionnaires de Versailles. Et le maire de Versailles, dont j'oublie le nom, est blessé
essaie de s'interposer.
De protéger le maire de Versailles est blessé. C'est épouvantable parce qu'il y a une dizaine de prisonniers qui sont massacrés devant la cathédrale de Versailles.
Il n'y a pas une femme parmi eux
C'est possible.
Au pied du château. Ça se passe au pied, entre le château, effectivement, Et la cathédrale. Qui a piloté les sans-culottes de Versailles qui massacrent ils ont été informés de l'arrivée.
Oui, ils ont été informés. Versailles aussi une section révolutionnaire. Ouais. Il y avait aussi une section révolutionnaire à Versailles. Il y en avait tout autour de... Paris n'avait... Paris a fait, je vous disais, 90% de l'action, mais il y avait des satellites.
Il y avait une guillotine à Versailles ou tout?
Il y a eu une guillotine à Versailles.
À Versailles, il y a eu une guillotine
à Versailles. Alors ça, je suis incapable de vous dire, mais les guillotines ont beaucoup bougé. À Paris, elle a commencé dans la cour du Carrousel, ensuite elle est passée place de la Concorde, et ensuite, quand... fin 1793, les Parisiens ne voulaient plus voir ça, elle est allée à la place de la Nation. Et c'est pour ça qu'il y a le cimetière de Picpus.
Oui,
voilà,
c'est très
très émouvant. Ah oui, et là, il faut que vous frappiez à la porte du cimetière de Picpus.
Oui.
Le gardien est très accord. D'abord, on traverse deux grandes pièces bourrées de poules, parce que les religieuses qui sont là ont des poules en liberté. Et ensuite, vous arrivez, et au bout, vous avez une grille, et vous avez le tombeau des Carmélites de Compiègne, le fameux dialogue des Carmélites, et vous avez, sur le côté, toutes les grandes familles aristocratiques de France ont leur tombe à Picpus, et c'est pour ça que Lafayette y est enterré, puisqu'il est dans le tombeau des Noailles.
Et il y a aussi un certain nombre d'autres personnes... pas victimes de la Révolution, des personnes d'une autre époque qui sont aussi enterrées donc à Picpus.
Ouais.
Donc aux côtés de ces familles aristocratiques.
Voilà.
Il y a par exemple aussi l'historien de la Révolution française, mais sur la petite histoire, vieille maison, vieux papier, qui est le nôtre.
Le nôtre, oui.
Il est enterré là, j'imagine, parce qu'il a écrit sur Picpus.
Et il a voulu être enterré là.
Ça
fait partie de... on va parler des massacres de septembre, c'est comme le petit escalier du couvent des Carmes, rue de Vaugirard. C'est des endroits où, quand vous êtes là, vous dites l'histoire est là.
Oui.
Hein, les 90 prêtres qui vont être massacrés au bas de ces 4 marches.
Hein.
Oui.
Alors, racontez. Ah,
voilà. Alors, les massacres commencent le 2 septembre. Le 2 septembre, c'est quand même une date extraordinaire parce que à 15h, c'est le grand discours de Danton. De l'audace, de l'audace, de l'audace, parce que la France est menacée d'être envahie. C'est extraordinaire. Et les massacres commencent par le massacre de 40 prêtres qui étaient enfermés à l'hôtel de ville et qui sont transférés à la prison de la Force et qui n'arriveront pas là puisque ce sont les fédérés qui vont d'ailleurs... fédérés surexcités, qui sont toujours là dans Paris, qui vont massacrer ces prêtres.
Alors, qui est à la manœuvre? Qui déclenche ces massacres? Pourquoi ces massacres? Donc c'est juste après
C'est un mystère. C'est le mystère de voilà, la foule, le peuple et la foule. Hein, c'est le grand truc de Victor Hugo.
La foule cherche les traîtres.
Oui, mais la foule, voilà.
C'est ça.
Voilà. Et alors, donc,
mais il y a aussi
ensuite.
La fameuse conjuration des prisons.
Oui. Alors, les massacres vont avoir lieu dans plusieurs endroits, au séminaire Saint-Firmin. J'y perds d'ailleurs, je le mets en note, j'y perds un très lointain parent, c'est les vertiges de la généalogie, l'abbé Carnus, qui est massacré au cimetière Saint-Firmin, et qui a eu une destinée extraordinaire. Il était professeur de physique au Collège Royal de Rodez, et il a été le premier ecclésiastique à fabriquer de ses mains une montgolfière et s'élever dans le ciel. Ce qui fait qu'en 1926, Pie XI a fait de lui le protecteur de l'aviation. Et moi, quand je monte dans un avion, je fais toujours une prière au bienheureux Carnus.
À votre aïeul.
Voilà. C'est pas un aïeul, c'est un très lointain cousin. Donc, il y a des massacres, et le plus emblématique, c'est effectivement ce massacre. Alors, il y a quelques années, on pouvait accéder très facilement en passant par la rue de Vaugirard. C'est la faculté catholique, rue d'Assas, rue de Vaugirard. Et on pouvait voir. Maintenant, c'est toute une histoire pour arriver à accéder à cet escalier. Ce petit escalier devant lequel Jean-Paul II est venu prier. Parce que Jean-Paul II avait... anecdotiquement aussi, puisque c'est une conversation à bâton rompu, Léon XIV a annoncé que dans sa visite en France, en septembre prochain... il irait au Carme de la rue de Vaugirard. Alors, il va certainement aller dans ce petit escalier où il y a écrit « Ic et Kederunt », ici, ils sont tombés. Hein, et c'est très émouvant parce
comment
que...
Comment ça s'est passé, en effet,
voilà,
l'histoire.
Et je termine juste l'histoire de Léon XIV, parce que Léon XIV, il vient pour tout à fait autre chose. Il ira sûrement. Il a une vénération particulière pour un Carme Deschaux qui s'appelait Laurent de la Résurrection, qui a discuté longtemps avec Fénelon en parle, et qui était dans ce couvent, il n'était même pas moine, il s'occupait de la soupe et des sandales, il était savetier. Mais il a écrit des lettres extraordinaires sur la présence constante de Jésus. Et voilà. Et Léon XIV a demandé...
Je tiens à préciser, pardonnez-moi, je vous interromps, mais que nous avons fait à Radio Courtoisie, ici, oui. une émission sur le rôle de la résurrection grâce à Denis Furon,
oui.
qui a écrit deux livres sur le rôle de la résurrection, en effet.
Qui est très populaire aux États-Unis. C'est ça qui est absolument incroyable. Et nous, on l'a complètement oublié en France.
Alors c'est pour ça au XVIIe siècle. Voilà. Hein, c'est
c'est un contemporain de Fénelon. Fénelon est très impressionné par lui. Et ce qui fait qu'il n'a pas été retenu en France, c'est que on l'a accusé de quiétisme, de ce qui était une quasi-hérésie dans laquelle Fénelon a été un peu compromis. Mais il a eu justement, par cette littérature, ces lettres qu'il a écrites où il dit, où il parle toujours de la présence constante de Jésus dans toutes les actions, quand on est à table, quand on se lave les dents, etc. Il est extrêmement présent aux États-Unis. Alors, je reviens sur les événements du 3 septembre.
Et au Carme particulièrement.
Voilà, Qu'est-ce qui s'est passé au Carme. Voilà. Et donc, une centaine de prêtres ont été parqués dans l'église. Il faut aussi visiter cette église, c'est la première coupole construite à Paris. C'est la première coupole, avant celle de la Sorbonne, avant celle du Val-de-Grâce, etc. Et on les a arrêtés, et il y avait, en bas de ce petit escalier, on leur demandait tout simplement de prêter serment à la Constitution civile et de prêter serment au nouveau régime, à la République, puisque la Constitution civile faisait partie de la Constitution, que la Constitution était en plein réaménagement, c'était... la République allait être proclamée 17 jours plus tard, mais enfin, il fallait faire allégeance au nouveau régime. Et aucun de ces prêtres n'a voulu le faire. Donc, ils étaient 90, et ils ont été massacrés à la pique en bas de ces cinq marches. Et ce qui est très émouvant, c'est que dans le couloir...
Voilà. Et ça, ils descendent l'escalier.
Ils descendaient, ils étaient massacrés à la pique. Il y avait cinq types qui étaient là. Et dans le couloir qui amène à ces petites marches, on voit encore... c'est sous des verres, la trace du sang qui s'est imprimé dans le plâtre. La trace du sang des pics qui s'est imprimé dans le plâtre. Donc ces massacres sont terribles, terribles.
Mais alors là aussi... Cette centaine de prêtres massacrés, donc au Carme, ils sont enterrés au même endroit, il y a une fosse commune, non ?
Alors, je crois qu'il y a eu... Alors je m'avance, hein, mais ça a vérifié, il y a eu une fosse commune au Carme. Il y a une fosse commune dans les Carmes mêmes.
Bien sûr, le nôtre a écrit hein,
sur voilà. Et donc, cette histoire. C'est un mystère. Comment c'est la furie. La furie, il y a plus de raison. Il y a Frédéric Bluch, le fils de François Bluch, a fait une très très belle étude de ces massacres. C'est la furie du peuple, c'est la foule. C'est la foule, c'est pas le peuple. C'est la foule qui
n'a plus... Mais au départ, il y a bien quelqu'un. Il y a quelqu'un qui...
Il y a une troupe particulière qui disent il faut y aller.
C'est ça, et puis c'est vous. Mais on ne sait pas qui lance le mouvement, on le sait
voilà.
même pas.
Ben, écoutez, prenons un raccourci diabolique, c'est comme hier soir, le PSG... Quel est le premier qui dit qu'il faut lancer une bouteille sur un CRS? Bon, voilà, une distanciation pour certains, par exemple les Girondins. Vous pensez que qui est le ministre de l'Intérieur à ce moment-là? C'est Roland. Roland va monter le lendemain à la tribune de l'Assemblée en disant il faut jeter un voile sur ce qui est arrivé hier.
Mais le massacre continue en plus.
Le massacre continue jusqu'au 6.
Le massacre continue.
On a du mal.
Les Girondins sont indifférents. C'est-à-dire qu'on a le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice qui ne font rien. Dont on ne fait rien.
Chabot, dont on va. Non, pas Chabot. Le père Duchesne. Le nom va me revenir. Le père Duchesne, le journal. Dit dans son style, parce que le père Duchesne, ce journal qui paraît toutes les semaines, c'est à peu près le canard enchaîné de l'époque, en plus en style ordurier. Et il dit, parlant des Rolands, justement, qui continuent d'être dans leur ministère, « Foutre, ça ne leur a pas coupé la boostifaille. » Donc, il y a une espèce de alors, Danton, les paroles terribles de Danton, c'est quand on vient dire à Danton, « Je me fous des prisonniers ». Ça, c'est ce qu'on reprochera très, très longtemps à Danton. « Je me fous des prisonniers ».
Il se fout des prisonniers, les Girondins sont indifférents au massacre. Et la question que l'on se pose quand même, Danton a provoqué en quelque sorte les journées des Tuileries, en les organisant, vous nous l'avez très bien expliqué, par ces discours enflammés. Mais là, est-ce que c'est Madelin, vous le citez, je vous lis. Danton se rendait-il compte, selon Madelin, que la véhémence de son discours ouvrait des écluses de sang?
Oui.
Alors, quelle est sa part? Il n'a rien fait, mais quelle est sa part de responsabilité dans le déclenchement des massacres?
Alors, il n'y a pas, à mon avis, comme je disais, c'est le côté diffus de la violence, et il y a juste... mon explication vaut ce qu'elle vaut, on ne la partage pas. J'ai vu d'ailleurs, mon livre a eu pas mal de critiques, et souvent des critiques venant d'historiens qui sont plutôt... je dirais pas anti-révolutionnaires, mais qui sont qui ont un recul par rapport à la révolution. Et je pense aux critiques que j'ai eues dans le Figaro Magazine et dans le Figaro Littéraire.
Vous avez eu des
articles. Voilà. Mais il y avait, on sentait bien la distance qu'il y avait par rapport à Danton. Moi, je rapporte une phrase de Jean Sévilla que par ailleurs j'aime beaucoup et qui dit Monsieur Desprats n'arrive pas à nous faire aimer Danton. Bah alors bon, mais alors, c'est
je complète si vous me permettez Jean-Paul Desprats par ce que dit Jacques de Saint-Victor justement dans le Figaro littéraire du 19 février 2026. Le titre une pleine page. Quand
oui
même,
oui hein. Pleine page. Pleine page. Non mais ça bravo
quand même,
bravo.
Flatteur.
Voilà
même,
ça ne m'était arrivé que pour Mirabeau.
Voilà, eh bien. Le titre, c'est « Danton, révolutionnaire ambitieux ou agitateur corrompu ». On pourrait peut-être répondre les deux.
Oui.
Je ne sais pas ce que vous allez en dire, mais voici ce que dit donc, Jacques de Saint-Victor. « L'écrivain Jean-Paul Desprats tente de réhabiliter celui qui ferma les yeux sur les massacres de septembre 1792 et finit sur l'échafaud par ordre de Robespierre. » À son insu, cette biographie permet de mieux saisir les zones d'ombre qui entourent cette figure de proue de la Révolution.
Voilà. Alors, si vous voulez, moi, c'est mon interprétation, ce système qui, effectivement, quand je ne peux pas résister, marque-boutée contre la fureur du peuple, j'accompagne le peuple dans ses fureurs et je répare après. Mais il y a un autre élément qui est capital. Je vous ai dit que le 2 septembre, c'est le discours, c'est que la France est sur le point d'être envahie. Et donc, toute l'énergie de Danton, et c'est là, Danton qui était contre la guerre au départ. La guerre, on l'a dit, surtout quand on a parlé des Girondins, la guerre, c'est l'histoire des Girondins au départ. C'est les Girondins qui ont voulu la guerre pour éprouver le roi, pour affermir la révolution. Et il a été d'accord au départ avec Robespierre en disant « la guerre est une bêtise ». Mais à partir du moment où le territoire est envahi, parce que effectivement, le 2 septembre, ce qui n'était pas le cas le 10 août, mais en trois semaines, le territoire a été envahi, Verdun est tombé, Longwy va tomber. Donc, toute l'énergie de Danton, c'est la résistance. Et là, autre parallèle avec le général de Gaulle.
Jean-Paul Desprats, nous vous propose, après cette pause que nous allons faire, un message de la radio et une pause musicale, vous avez choisi, je crois, le premier mouvement de la symphonie héroïque de Beethoven, sans doute parce que ça illustre bien, selon vous, la personnalité. Bah,
Valmy arrive.
Et c'est ça, exactement. Et puis cette personnalité de Danton, parce que c'est vrai que vous avez clairement expliqué sa responsabilité très directe dans les journées des Tuileries, les journées d'août. En tout cas, sa passivité devant les massacres, hein, il laisse massacrer. Il a quand même eu un rôle d'encouragement à travers.
Mais personne ne s'y oppose. Il n'y a pas une voix pour s'y opposer, ni chez les Girondins.
Voilà. La justice, hein, Jean-Paul Desprats, c'est quand même pas rien. Et puis, tous ces discours, hein. Danton, je le rappelle, je l'ai cité déjà, Danton, selon Madelin, l'historien Madelin se rendait-il compte que la véhémence de son discours ouvrait des écluses de sang? Il a quand même participé indirectement à l'horreur de ces massacres. Mais je vous propose, si vous voulez bien, après cette pause, que nous évoquions son rôle, effectivement, dans la guerre.
Hein, oui.
De l'audace, toujours de l'audace. Et puis aussi, ne pas oublier que pendant cela, c'est ça qui est extraordinaire, pendant qu'on massacre, il y a les élections.
Voilà.
Voilà. Hein, donc nous faisons une pause et nous évoquons ces événements après le message et après la pause musicale, accompagnée d'ailleurs de très nombreux messages d'auditeurs que je vous lirai.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, après cette symphonie héroïque de Beethoven, pour illustrer le personnage de Danton que raconte
magnifiquement Jean-Paul Desprats dans cette biographie Danton, Bonhomme ou démon, aux éditions du Rocher. Effectivement, c'est Bonhomme ou démon, hein, quand on évoque avec vous Jean-Paul Desprats, à la fois la prise des Tuileries et les massacres de septembre, dans lesquels il a à chaque fois soit un rôle vraiment moteur, soit un rôle assez trouble. On comprend que cette question bonhomme ou démon puisse en effet se poser, tel que le Figaro littéraire l'a fait dans ce très bel article. Alors je rappelle, chers auditeurs, que nous avons le plaisir de recevoir Jean-Paul Desprats, donc pour ce Danton, bonhomme ou démon, aux éditions du Rocher. Avant de reprendre à la fois sur la fin des massacres de septembre, la guerre avec le redressement d'une situation très compromise, et puis aussi les élections, parce que tout ça, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on massacre dans les prisons. Il y aura combien de victimes d'ailleurs, Jean-Paul Desprats ?
Un peu plus de 1000 à Paris.
En 3 jours, voilà. Oui, en 4-5 jours. Ouais. Quoi. Et en province ?
En province, un peu moins. Enfin, on a pas su faire le compte, mais ça ne dépasse pas 2000 personnes pour toute la France. Mmh. Et c'est déjà beaucoup.
C'est déjà énorme.
C'est déjà beaucoup.
En effet. Et puis, donc, je vous propose de vous lire les messages de nos auditeurs, qui sont nombreux, merci en tout cas, chers auditeurs. Alors, un auditeur, n'est-ce pas Danton qui aurait volé les joyaux de la couronne pour les donner à la Prusse, afin que l'armée prussienne soit neutralisée pendant la bataille de Valmy? Les militaires prussiens ont tous eu... il paraît qu'ils étaient malades. Alors, c'est vrai que quand on parle de Valmy, soit on entend... qu'ils ont été corrompus, leur général a été corrompu, payé pour quitter la France d'ailleurs, soit on entend qu'ils étaient tous malades, soit peut-être les deux. Alors que, et donc notre auditeur pose la question, est-ce que c'est avec les joyaux de la couronne ?
Non, je ne pense pas. Quoi, je vais raconter une anecdote personnelle qui est assez drôle. Il y a 20 ans, j'ai connu un monsieur qui voulait que je travaille à une exposition sur le bicentenaire du Code civil. C'était un monsieur qui avait fait des tas de choses, grand résistant, et qui avait un château magnifique juste à côté de Valmy qui s'appelait le château de Brault-Sainte-Cohère. Ce monsieur est décédé, et chaque fois que j'allais le voir, il m'amenait dans le grand salon, ce château était magnifique, il m'amenait dans le grand salon, il soulevait les lattes du parquet, il me disait, voyez, c'était là qu'étaient les diamants de l'Argonne. Bon, je ne le crois pas, parce que d'abord, la plupart de ces diamants ont été retrouvés, hein, la plupart de ces bijoux ont été retrouvés, contrairement à ceux...
ceux
du Louvre l'an dernier. Voilà. Il y a plusieurs raisons. C'est le génie tactique de Dumouriez. On va être obligé de parler de Dumouriez parce que Danton, c'est un bon copain. Ah bon, et c'est ce qui va le tuer avec Fabre d'Églantine, de la Croix et Camille. Et c'est pareil, il va soutenir Dumouriez au-delà du raisonnable. Alors Dumouriez, c'est un personnage très intéressant, c'est c'est un officier, qui est un officier ingénieur, c'est à lui qu'on doit le port de Cherbourg, hein, l'aménagement du port de Cherbourg, qui a été un des plus grands travaux, parce que le problème de la France était de ne pas avoir de port à grande profondeur sur toute la côte de la Manche et face à l'Angleterre. Donc il va être le magnifique organisateur il va aussi participer aux guerres de Vendée et il va afficher des opinions révolutionnaires. Danton va être séduit par le personnage à juste titre puisque au départ, vraiment, la France est dans une situation absolument impossible le 2 septembre. D'ailleurs, pour revenir sur tout à l'heure, certains historiens ont dit que si Danton avait laissé se poursuivre les massacres, c'était pour rassurer les hommes qui allaient partir, qui ne pas laisser derrière leurs femmes et leurs enfants à la merci d'aristocrates et de comploteurs des prisons pour que ces gens aient l'esprit libre pour aller se battre. Hein, c'est qu'ont avancé certains historiens
favorables à Danton. On est vraiment dans l'interprétation.
Ça aussi, j'y crois. Oui. Peut-être que ça a pu jouer, mais pas de façon dirimante. Et le génie de la situation était désespérée, puisque deux semaines avant, jusque-là, on se battait contre l'Autriche qui était présente, On se battait pas à Vienne, on se battait à Bruxelles, sur la frontière, puisque l'archiduc de Vienne, empereur du Saint-Empire romain germanique, roi de Hongrie, était en même temps le comte des Flandres, l'homme qui régnait à Bruxelles. Donc on se battait contre l'Autriche, et deux semaines avant le 2 septembre, il y a la jonction des troupes autrichienne et prussienne, hein, et sous la direction d'un général prussien, Brunswick. Et donc, c'est un rouleau compresseur qui arrive. Verdun, Longwy, Sedan est menacé. Et le génie de Dumouriez, c'est de dire, je les attire dans la forêt de l'Argonne, la forêt de l'Argonne, qui est une grande forêt à côté, entre Valmy, Saint-Bénéhould, voilà. Et cette forêt de l'Argonne, il a tout de suite vu, c'était un géographe aussi, il a tout de suite vu qu'elle avait 5 entrées et qu'en coinçant ces entrées, il bloquait les armées prussiennes surtout. C'était les armées prussiennes qui avançaient à ce moment-là. Et ça a été son génie, ça a fonctionné. Ça a fonctionné.
Il les bloque, mais qu'est-ce qui se passe une fois après ?
Alors, ils sont rentrés à deux endroits et puis il y a eu l'arrivée à Valmy. Alors, et les historiens ont raconté plein ont accumulé les causes de. Alors la plus belle, c'est que les prunes n'étaient pas mûres, donc les soldats prussiens qui ont abusé des prunes ne pouvaient plus se tenir à cheval. Donc voilà. Mais c'est un engagement parce que Dumouriez n'est pas sur place au moment de Valmy, et c'est Kellermann qui est là, et ils ne s'entendent pas, d'ailleurs ils ne s'entendent pas tous les deux, et c'est une canonnade, et c'est Brunswick qui dit en allemand, nous ne nous battrons pas ici, et qui se retire, voilà. Donc c'est un coup de bol absolument extraordinaire, mais la bataille capitale et qui montre tout le génie de Dumouriez, c'est le 8 novembre, donc pas très loin, 40 jours plus tard, un peu moins de 2 mois plus tard, c'est la bataille de Jemappes.
Parce que lorsque Brunswick se retire, il se retire où quel mouvement
fait-il ? Il se retire sur la frontière belge. Il se retire sur la frontière belge puisque la bataille de Jemappes va avoir lieu à côté de Mons. Jemappes, c'est les faubourgs de Mons.
Donc Valmy interrompt l'invasion de la France.
Voilà.
Mais ce qui est étonnant, c'est le manque de combativité de Brunswick in Schier. On peut comprendre qu'il se retire parce que le terrain ne lui convient pas ou que sais-je encore, mais il ne cherche pas à poursuivre le combat. Pour quelle raison, justement ?
Alors, il est en désaccord avec sa hiérarchie supérieure, c'est-à-dire le roi de Prusse, et Frédéric Guillaume et les Autrichiens. Lui, c'est un homme de l'ancienne école. Il dit, on ne commence pas à se battre au mois de septembre. On prend des quartiers d'hiver et on voit tout ça au prochain printemps. Donc, il ne voulait pas se battre. Il ne voulait pas se battre. Il va être obligé ensuite. Alors, c'est surtout les Autrichiens qui vont avoir affaire à Dumouriez, à Jemappes.
Donc, Jemappes, c'est contre les Autrichiens.
Jemappes, c'est essentiellement. Il y a des Prussiens, mais c'est essentiellement contre les Autrichiens.
Jemappes,
c'est vraiment une bataille en rase campagne. Oui. Et là, les Français emportent la bataille.
Jemappes, c'est en Belgique
C'est la banlieue de Mons. C'est la frontière française.
Et là, les Prussiens acceptent de se battre en hiver, pas en automne.
Oui, Dumouriez a ramassé toutes ses troupes. À réorganiser ses troupes, c'est un organisateur, et il est dans l'offensive, et il y a une... Alors, c'est aussi le problème de l'armée à l'époque, c'est que qui sont les officiers ? Les officiers sont presque tous des aristocrates. Les trois quarts des aristocrates ont fui, sont émigrés, mais là aussi, ce sont des aristocrates qui ont adhéré à la Révolution, mais jusqu'à un certain point. Et on va le voir par les défections successives, comme Custine, par exemple, à la bataille de Jemappes, un des hommes qui mène la cavalerie, c'est le futur roi des Français, c'est Louis-Philippe, qui est là, qui est là dans les armées, sous les ordres de Dumouriez.
C'est le fils hein, de Philippe Égalité.
C'est le fils de Philippe Égalité.
Oui.
Il a 20 ans.
Quel est le génie militaire de Dumouriez, ben notamment à GEMAP hein.
Justement, ben il s'est magnifiquement enveloppé l'armée autrichienne. Il s'est magnifiquement faire donner... Napoléon, qui a étudié toutes les batailles, dira plus tard que c'était pas mal.
Ce qu'il a fait, en effet, à GEMAP. Quelle est la... Donc, nous sommes en novembre 1792, ouais. GEMAP.
1792, oui.
Les Autrichiens et les Prussiens sont battus.
Voilà.
Oui, donc, ils se retirent. Que se passe-t-il à ce moment-là?
Il y a un statu quo, il y a une espèce d'armistice, mais l'invasion de la France est stoppée. Et ça, l'homme qui a forgé tout ça, c'est Danton.
Mais pourquoi il a forgé tout ça? Quel est son rôle là, entre Valmy, Valmy de, c'est le 2 septembre, c'est là, de l'audace, encore de l'audace, la patrie en danger, etc. C'est un discours.
Oui,
mais que fait-il de... Quel est son rôle concret? Parce que les discours, c'est bien, mais concrètement, que fait-il? Est son rôle, Danton, dans cette victoire
Justement, c'est de faire voter... C'est de faire voter des crédits pour l'armée, il le dira au moment où les Girondins qui vont l'attaquer, quand il va quitter le ministère de la Justice, je vous ai dit qu'il n'y restait que 70 jours, les Girondins vont être odieux avec lui, l'attaquant sur ses comptes, la reddition de ses comptes,
oui.
qu'il refusera de... Alors qu'est-ce qu'il dit? C'est le quoi qu'il en coûte, il défend le quoi qu'il en coûte. J'ai balancé de l'argent pour sauver la République. Hein. Lorsque l'ennemi s'est emparé de Verdun, lorsque la Convention se séparait même des plus courageux citoyens, le législateur nous a dit « N'épargnez rien, prodiguez de l'argent ». Nous l'avons fait. Et j'avoue que pour la plupart de ces dépenses, je n'ai pas de quittance bien légale. Voilà. C'est lui qui a organisé, qui a obtenu des crédits monumentaux, qui a réorganisé l'armée. Il a fallu d'autres fédérés. On a réorganisé l'armée, qui sera complètement réorganisée par ce qu'on appelle l'amalgame 6 mois plus tard. On a une armée assez faible. On a une armée de 100 000 personnes à tout casser, et elle va être portée à 300 000 6 mois plus tard par les décrets de Dubois-Crancé. Qu'on appelle l'amalgame. Parce que,
ce qui va provoquer la Vendée.
Voilà, parce qu'il y avait une opposition entre les volontaires et puis les soldats de métier. Et les volontaires étaient mieux payés que les soldats de métier, ce qui posait problème. Et c'est le génie de Dubois-Crancé, qui sera un très grand ministre de la guerre, de parfaire l'œuvre de Danton, mais que Danton avait commencé. Danton débordait tout. Hein. Il était chargé de la justice, mais il s'occupait de la guerre. Et il va faire la même chose plus tard au comité de salut public.
En effet, l'aborder. Mais comment arrive-t-il justement? Il est ministre de la justice, mais comment fait-il pour déborder, aller au-delà de ses responsabilités et avoir ce rôle finalement? C'est lui chef de l'exécutif en quelque sorte.
Mais exactement. Et c'est son but dès le départ, c'est ce que j'écris. Oui. C'est que par exemple, il arrive par son culot à faire que les réunions du Conseil des ministres se tiennent place Vendôme au ministère de la Justice. Elles auraient dû se tenir aux Tuileries, même si les Tuileries étaient en grande partie endommagées. Il restait encore, par exemple, la fameuse salle verte dans le pavillon de Flore, où va plus tard se réunir le comité de salut public, était intact. On aurait pu se réunir là. Ben non, il arrive à fixer l'ordre du jour et à convoquer et à faire peur à ses collègues. C'est Roland qui dit « Mais je n'ose pas lui résister. C'est un ouragan. » Et il déborde hardiment de la justice parce que c'est lui qui signe les décrets, tous les décrets de réorganisation de l'armée.
C'est son énergie, en quelque sorte.
C'est son énergie.
Il
terrorise les ministres successifs de la guerre, Servan et autres, qui seront à ses ordres.
Alors, si vous voulez bien, Jean-Paul Desproges, je poursuis les messages. Parce qu'il y a vraiment de nombreux messages.
Allez-y.
Certains, nous pourrons les garder parce qu'ils sont un peu en avance par rapport à des sujets que nous aborderons pour d'autres émissions, puisque vous allez revenir, Jean-Paul Desproges.
Ah bah écoutez,
vous allez nous faire ce plaisir, quand même. Il y a encore beaucoup de choses à raconter sur
Danton. Je ne vous lasse pas.
Oh, bah non, les auditeurs sont ravis, j'en suis persuadé. Un auditeur, est-il exact que le général Laumur a nommé Danton grand juge?
Quelle était la fonction de ce grand juge? Ça vous dit quelque chose?
Alors, moi, ça ne... Écoutez, excusez-moi, je...
Auditeur, il faudra nous préciser.
Voilà, non, parce que je ne vois pas.
Danton a-t-il participé au comité de salut public qui a organisé le pouvoir, le premier génocide des Vendéens? Alors, je garde ça...
Oui.
Nous gardons ça pour le comité de salut public.
Voilà, le comité de salut public, il sera réélu 4 fois, puisque il était renouvelé tous les mois. Il sera renouvelé 4 fois. Et justement, là, on peut anticiper juste sur un point, c'est quand il n'est pas réélu en octobre 1793 qu'il y a vraiment la rupture avec Robespierre et que les choses commencent à aller très mal.
Très mal pour lui.
Les 8 mois qui suivent vont être des mois décisifs.
Un auditeur, j'ai visité récemment les Carmes avec art, culture et foi.
Oui.
Ils ouvrent une fois par mois les locaux. La fosse commune creusée dans le jardin avait été découverte plus tard et les ossements des malheureux ont été réunis dans la crypte sous l'église que l'on visite. Voilà, réponse aux questions qu'on se
posait.
Donc, dans l'église, il y a en effet les ossements des malheureux qui ont été donc assassinés le 2 septembre au Carme. Un auditeur qui nous précise sur les événements de Versailles. Le maire de Versailles, en septembre 1792, se nomme Richaud.
Richaud.
Le massacre du 9 septembre eut lieu au carrefour des Quatre Bornes, près de la cathédrale. Et il y a une plaque.
Il y a une plaque.
Alors que la peinture qui représente cette scène met la charrette au pied
des 100 marches.
C'est ça qui... Oui.
Voilà.
Alors que c'est un peu plus loin.
La plaque est bien au bon endroit. La cathédrale.
Voilà. Quant à la guillotine de Seine-et-Oise, elle était dressée sur l'actuelle place Hoche. Donc devant, entre la place d'Armes.
Chaque département avait sa guillotine. Par exemple, à Rodez, elle était sur la grande place la place de la Cité.
Et c'est signé un Versaillais qui nous remercie pour cette émission.
Merci. Mais
merci, cher Versaillais. Vous connaissez bien l'histoire de votre ville. Et puis, un auditeur, une question un peu pointue. Est-ce que le Danton de la mort de Danton de Buckner est fidèle à l'histoire?
Ah, il est génial.
Il
est génial, mais c'est la grande littérature. C'est la grande littérature. Et c'est une des grandes... Justement, je vais participer à un débat sur cinéma, théâtre et histoire. Et c'est un modèle. Et puis, quelqu'un comme Depardieu, une véritable incarnation.
Une incarnation réussie,
c'est vraiment Depardieu dans ce rôle. Parce qu'on l'imagine comme ça. On imagine l'homme débordant de bonhomie en même temps, de vie, aimant le plaisir, les plaisirs assez simples. Mais, et puis, quand il y a un contradicteur, souvent, ça ne marche pas avec Robespierre, mais avec souvent les autres. Bon, écoute, tais-toi, allons manger la poularde.
Ça se passe pas ça, se passe comme ça
Oui, il dit souvent, allons manger la poularde.
Eh bien, un autre message, Jean-Paul Desbras. Danton était-il d'accord pour massacrer les Vendéens? Je vous propose qu'on garde ça
lorsqu'on va évoquer cette période.
Lorsqu'il était en effet au comité
Dumouriez,
de salut
parce
public.
Il y a plusieurs épisodes de l'affaire vendéenne, et Dumouriez est dans la première partie. Dumouriez comme un... Ça va assez bien avec l'esprit de Danton, comme un modérateur en Vendée. Et ensuite, ça va être...
Dumouriez est en Vendée sur le début de la guerre.
Au tout début de la guerre de Vendée. Voilà.
Mais il n'est plus face à la coalition.
Quand il quitte Cherbourg, il est... Alors, Dumouriez, on n'a pas fait son portrait. Je vous disais, c'est un personnage torturé, pré-romantique. Il est morphinomane, ce qui est assez... Et il a été plusieurs fois tenté par le suicide. Et puis c'est un homme qui, l'adhésion à la Révolution, il se trouve à Paris le 21 janvier 1793, il n'assiste pas à l'exécution de Louis XVI, il reste chez lui, mais il y a des, comme ça, des, et on y reviendra certainement, mais...
Ah oui, bien sûr.
Danton lui fait totalement confiance, mais Danton ne comprend pas, ça va très très vite ensuite, entre la trahison qui est du début avril 1793. Et le dernier, la dernière rencontre avec Danton, qui est du mois de mars, Danton ne comprend pas ce que va faire Dumouriez. Et Dumouriez, il n'a qu'une idée, c'est qu'il faut arrêter la révolution, il faut rétablir la monarchie. Et il est prêt à trahir et à mettre les Autrichiens dans le coup pour revenir à Paris. Oui. C'est ça. C'est un personnage tortueux, génial sur le plan militaire, hein, puisque on lui doit la préparation de Valmy, on lui doit l'éclatante victoire de Jemmapes, qui est vraiment la victoire de libération du territoire. Et puis ensuite, un homme extrêmement tortueux qui s'avérera n'être pas un révolutionnaire.
Et qu'est-ce qui l'amène justement à changer d'attitude entre ses victoires, novembre 1792 et mars donc 1793, voilà. Il est toujours à la tête des mêmes troupes, il est dans le Nord,
oui.
Et donc il va essayer de retourner ses troupes
Il a même une position de général en chef, hein. Il a même des instructions à donner à ceux qui sont sur le Rhin, etc. Mais c'est un homme qui déteste le désordre et qui tout d'un coup se dit que cette révolution, surtout le tour qu'elle prend... on n'est pas encore aux lois de septembre de 1793 avec les lois de la terreur. Mais il pressent déjà ce qui va arriver. Tout d'un coup, c'est le retournement et il se met à... Il trahit, puisqu'il discute avec les officiers autrichiens et les officiers prussiens.
Et quel est l'objet de ces discussions?
Je
propose que nous terminions là-dessus, si vous voulez bien.
L'objet de la discussion est tout simple, c'est « venez m'aider ». Je dégage tous les gens suspects dans mon armée qui sont révolutionnaires et venez m'aider et on rentre en France et on prend Paris, on rétablit la monarchie.
C'est son plan.
C'est tout simple, oui, bien sûr. Le plan final de Dumouriez, c'est de revenir à Paris en force avec des... ce que n'aurait jamais osé faire Louis XVI. Hein.
En mars 1793, oui. Voilà. Pourquoi ça ne fonctionne pas?
Ça ne fonctionne pas parce que les officiers, l'armée ne suit pas. L'armée ne suit pas. Hein. Donc,
alors il y a des gens. Il pensait que l'armée suivrait pour ça.
Il a des généraux qui sont d'authentiques révolutionnaires. Donc, l'armée ne suit pas. Alors, certaines personnes auront un rôle un peu trouble dans cette affaire, à commencer par le futur roi des Français. Le futur roi des Français participera aux premières négociations avec l'ennemi. Bon, on arrivera plus tard à le plus ou moins à le dissimuler, mais Louis-Philippe a certainement connu... Enfin, Louis-Philippe va bien s'en sortir, puisqu'il va très vite prendre la tangente.
Eh bien, Jean-Paul Desprats, merci beaucoup pour vos propos concernant Danton, et puis aussi la révolution entre les massacres de septembre et les victoires de Dumouriez. Vous reviendrez, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter sur Danton, tel que vous faites dans cette passionnante biographie Danton, bonhomme ou démon, que vous proposez aux éditions du Rocher. Merci à Axel, à la technique qui a réalisé cette émission. Merci à Laurent, au standard. Merci à vous tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour votre fidélité. Très bon dimanche soir à vous tous et n'oubliez pas que Radio Courtoisie a besoin de votre soutien.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Amitiés Françaises, dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie le 31 mai 2026 de 18h à 21h et réalisé par Axel. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.